Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet.
Bonjour à toutes et à tous. L'enseignement du grec à des coptes ne passait-il que par des listes de mots, que par des glossaires bilingues, dont on a vu un certain nombre d'exemples lors des semaines précédentes? Évidemment, non. Vous souvenez ce glossaire à Osée et à Amos? Eh bien, il montre à lui seul, même s'il s'agit d'un exemple unique et ancien, que l'apprentissage du vocabulaire grec que visent les glossaires s'accompagne de la lecture de textes suivis. Avons-nous des traces de la copie et de l'étude des textes grecs par des coptes natifs en train d'apprendre le grec? Alors, avant de répondre à cette question, il faut être conscient d'une difficulté majeure. Les textes sont parvenus la plupart du temps sans contexte. Et il est le plus souvent impossible de savoir s'ils ont été recopiés par des élèves coptophones apprenant le grec ou par des hellénophones natifs dans le cadre ou non d'un enseignement. Alors heureusement, certains indices nous mettent sur la voie. Alors parmi ces indices, il y a évidemment les fautes qui sont typiques d'un scripteur copte. Alors parmi ces indices, il y a évidemment les fautes, je le disais, qui sont typiques de quelqu'un qui est copte. C'est le cas de cette tablette de Wurtzbourg, sur les deux faces de laquelle a été recopié au 7e, 8e siècle un texte liturgique dans une écriture très malhabile. Alors, voici le texte en grec, au tout début, et dans la partie inférieure de l'écran, le texte corrigé, malgré certains passages qui sont vraiment désespérés. Alors, vous voyez, extrait du Théologien, deux points, « Nous te chanterons, toi qui es né de la Vierge, puis nous te vénérerons. » Alors, il y a des lacunes, malheureusement. « Lumière et ténèbres, chair et esprit, il nous a donné la liberté. » Et ensuite, sur l'autre face, « Grand prêtre comme », là encore, le texte est très lacunaire, mais vous reconnaîtrez, à partir de la troisième ligne, enfin, c'est-à-dire la septième ligne d'après la diapositive, vous reconnaîtrez un passage de Matthieu 16, 18, très connu, « Tu es pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. » Et le texte continue, là encore, avec des lacunes. Alors, il est clair que ce texte a été dicté, ce qui explique les nombreuses fautes phonétiques, évidemment dues au manque de maîtrise du grec de la part de celui qui copie, mais aussi probablement à une mauvaise prononciation de la part de celui qui dicte. Confusion constante entre les voyelles et entre les consonnes, notamment entre les consonnes sourdes et les consonnes sonores, entre les aspirées et les non-aspirées. Mais la faute qui est la plus éloquente pour mon propos est l'emploi de cette lettre copte, typiquement copte, le hori, qui marque l'aspiration, et qui a été utilisé là pour rendre l'aspiration grecque. Regardez à la ligne 1, le mot « hemnousomen », qui est en fait une forme très déformée du mot grec « hymnesomen », hein, nous faisons des hymnes, nous célébrons, ou nous célébrerons, et vous voyez que l'aspiration du grec a été rendue avec une lettre copte. De même à la ligne 4, le pronom personnel « humon », vous, à la ligne 8, Tes Hagias, hein, de la Sainte. Là encore, l'aspiration est rendue par un hori. Et par ailleurs, on notera la surligne, qui elle aussi est un coptisme. Hein, on n'utilise pas en grec de surligne au milieu d'un mot. La présence de ces fautes explique la raison pour laquelle l'éditeur a donner son texte en caractère copte, puisqu'il considérait que c'était quasiment du copte, en tout cas c'est écrit par quelqu'un qui est avant tout un coptophone. Alors étant donné l'usage du grec dans la liturgie, rien n'empêche que ce texte ait été copié à des fins liturgiques. Mais l'emploi d'une tablette, hein, support, vous le savez maintenant, typique de l'école, conjugué à la maladresse de l'écriture, oriente très fortement vers l'hypothèse d'une utilisation scolaire de ce texte, ou d'une copie scolaire de ce texte. On remarquera qu'en plus d'être malhabile, l'écriture de notre tablette est une bilinéaire sans ligature, écriture typique du copte. C'est un indice supplémentaire d'une ambiance copte, mais indice qu'il faut utiliser avec prudence pour autant que les mains scolaires, en règle générale, évitent la cursive et ont plutôt tendance à utiliser des lettres capitales, des majuscules séparées les unes des autres. On serait tenté d'annexer à la catégorie des textes grecs copiés par des coptes en contexte scolaire, par exemple, donc du point de vue, là je me place du point de vue uniquement paléographique, eh bien cet ostracone d'Edfou, il s'agit d'une paraphrase grecque de l'épisode des femmes au tombeau, hein, écrite dans une majuscule, là encore, non ligaturée, qui ne déparerait pas pour la copie d'un texte copte. Alors, le texte est assez difficile à saisir. Là encore, il est effacé, mais il y a aussi un certain nombre de fautes. Mais vous voyez qu'il est question, si je le traduis, « Elles allèrent à son tombeau apportant des aromates et psalmodiant, elles trouvèrent, alors là, il y a une lacune, la pierre, évidemment, la pierre du tombeau enlevée. » Alors, autre indice, la présence concomitante de textes grecs et de textes coptes. Ceux-ci peuvent être de mains différentes, comme dans ce petit cahier de papyrus, où une main a copié le psaume 32, enfin une partie du psaume 32, puis une autre à l'envers un texte copte, donc le psaume était en grec, mais là ce texte est en copte, qui pourrait être une citation biblique, et enfin une troisième main a écrit les lettres de l'alphabet à l'endroit, à l'envers et selon diverses combinaisons, en plus d'exercices arithmétiques et d'un petit dessin que je ne résiste pas au plaisir de vous montrer. Certes, le texte biblique grec n'est pas de la même main que le copte, mais la présence de ce dernier pointe vers une ambiance coptophone. Alors, témoignage plus incontestable d'une formation bilingue sont les exemples mêlant des textes grecs et coptes écrits par la même personne. C'est le cas de cet ostracone du British Museum, qui, en plus d'arborer, comme vous pouvez le voir, une écriture très copte, je dirais, qui plus est malhabile, est écrit tout du long par la même personne. Il comporte sur la même face 6 lignes donnant un tropaire, donc une hymne en grec, suivi de Daniel 3, 57, œuvre du Seigneur, bénissez le Seigneur, faisant partie du cantique des trois jeunes gens, et après une croix, eh bien une lettre copte, qu'on pourrait traduire ainsi, moi, Dioscor, le maître, hein, le mot copte qui est utilisé est sar. On aura l'occasion de revenir sur ce mot qui peut désigner justement un maître d'école. Je salue mon frère bien-aimé Ounaref et ma mère Nouba, ainsi que Lawae, tous ses enfants et son mari, etc., etc. Alors on a proposé de voir dans cette ostracone une vraie lettre par laquelle Dioscoros envoie, ou Dioscor envoie, un texte liturgique, ce qui est au tout début, à son correspondant. Je pense qu'il s'agit plutôt de deux exercices de copie ou de dictée, l'un en grec à partir d'un texte liturgique, l'autre en copte à partir d'une lettre. Cette dernière pourrait même être une composition. Vous noterez qu'elle ne semble pas avoir de fin et qu'elle comporte l'omission de l'expression formulaire de début de lettre, hein, « Esraï, j'écris ». Normalement, on dit toujours « moi, un tel, j'écris et je salue » avec le nom du correspondant. Et là, le mot « j'écris » a été oublié, de même que le mot « mamère » ou la séquence « mamère » a été écrite deux fois. Ces indices ajoutés à la maladresse de l'écriture, eh bien, il ne serait pas invraisemblable que l'on ait ici à faire un exercice. On notera que la même main a recopié un autre texte liturgique comportant un sanctus, saint, et le Seigneur, sur un ostracone, lui aussi conservé au British Museum. Vous voyez, l'écriture est la même. Le texte, dans une orthographe qui est encore plus catastrophique que celle du précédent, est introduite par la mention « Apa Heianes », qui est une forme de « Apa Jean », qui est peut-être le nom de l'élève, on ne sait pas, et se conclut sur une date, écrite le 8 du mois de Pauni, à l'instar de beaucoup d'exercices scolaires. On a eu l'occasion d'en voir un certain nombre il y a deux ans. Très souvent, l'élève date ses exercices, sur les tablettes notamment. Alors, comme la tablette de Wurtzbourg, on y retrouve aussi un coptisme graphique, là encore, presque sur le même mot que dans la tablette de Wurtzbourg, puisqu'on a le verbe, non pas alors la humnéo, mais anumnéo, c'est-à-dire faire monter des louanges, des hymnes, qui est écrit avec, comme vous le voyez, une surligne au-dessus du mu et du nu. Ce qui est analogique, évidemment, de la préposition grecque « men », qui est écrit aussi avec une surligne, qui signifie « avec ». Alors, le caractère scolaire de ce texte pourrait être en tout cas renforcé par le fait que les mots, comme vous le voyez, sont séparés par ce qu'on appelle techniquement des dicolas, c'est-à-dire des doubles points. Et là aussi, c'est assez typique des textes scolaires. Pour aider l'élève, on sépare les mots, alors que normalement, dans un texte grec, on ne sépare pas les mots des uns des autres. C'est ce qu'on appelle la scriptio continua, l'écriture continue. Alors jusqu'ici, les exemples que je vous ai montrés combinent des textes différents dans les deux langues. Mais on peut avoir aussi un même texte écrit en grec et en copte. Là encore, si rien n'oblige à y voir systématiquement les restes d'un enseignement bilingue, on peut légitimement se demander si certains de ces textes bilingues n'ont pas servi à enseigner à des coptes la langue et la littérature grecque, comme les glossaires gréco-coptes, dont ils sont, j'allais dire, presque l'équivalent, à ceci près que les mots font place, cette fois-ci, à des expressions plus longues ou à des textes plus longs. Alors, si je laisse de côté des ostracas dont rien ne permet d'affirmer le caractère scolaire, j'illustrerai cette catégorie de textes bilingues potentiellement scolaires avec une autre tablette de Wurtzbourg du 7e-8e siècle. Une hymne au Christ et à Marie a été copiée en grec d'un côté et en copte de l'autre. Alors, les éditeurs pensent que les deux mains sont différentes. Alors malheureusement, les photos ne sont pas très bonnes et ce n'est pas facile de faire une analyse paléographique précise. En tout cas, les éditeurs pensent qu'on a affaire à deux mains différentes, mais les différences entre les deux textes ne sont-elles pas plutôt dues à des styles différents plutôt qu'à des personnes différentes, ou bien à une plus grande familiarité du scripteur avec le copte qu'avec le grec, ce qui expliquerait la plus grande fluidité de la partie en copte par rapport à la partie en grec. En tout cas, le support, une tablette, là encore en bois, le support de ce texte bilingue semble orienté vers un contexte scolaire. Plus intéressant, mais peut-être plus difficile à interpréter pour notre propos, est ce codex de papyrus qui vient du monastère d'Épiphane. Un codex de 8 folios cousus entre eux pour former un quaternion dans lequel on a recopié deux hymnes acrostiches grecques. Acrostiches, c'est-à-dire qu'en fait, chaque initiale correspond à une lettre de l'alphabet. Donc on commence par alpha, ensuite bêta, gamma, etc. Deux hymnes acrostiches grecques suivies chacune de leur traduction en copte, en plus de divers extraits en copte néo-testamentaire, Paul, Jacques et patristique avec Athanase d'Alexandrie et Sévère d'Antioche. Alors, le copiste a adopté un style d'écriture typique des manuscrits liturgiques, hein, la majuscule penchée. Anne Boudor, qui a étudié ce texte, en 2008, Anne Boudor a même proposé d'y reconnaître la main d'un certain Marc, diacre puis prêtre, en même temps que copiste en activité, vers le début du 7e siècle, dans le topos, ou le monastère, de Saint-Marc, à Gournet-Mouraille, sur la rive ouest de Thèbes, topos dont il fut l'igoumène. Et ce personnage a laissé une multitude d'ostracas qui ont été exhumés à Saint-Marc, mais aussi au monastère d'Épiphane, au monastère de Feuillbamont et dans la tombe thébaine 29, indice que ses talents, les talents de ce copiste, ont été très appréciés dans cette zone et que, voilà, on lui a fait faire un certain nombre de travaux de copie. Alors, quel peut être le statut de notre codex, de cet hymnaire? Il s'agit d'un hymnaire de fortune confectionné sommairement, quatre folios cousus grossièrement, ne contenant que deux hymnes qui sont par ailleurs inconnus. Alors, le copiste, comme vous le voyez, je vous montre la page 1 et la page 2, donc qui sont en vis-à-vis. Le copiste a présenté son texte de sorte que chaque page de grec à gauche fasse à sa traduction en copte, donc à droite. La position première des textes grecs est l'indice que les textes coptes ne sont là que comme aide pour mieux comprendre les textes grecs. Les seuls, d'ailleurs, à avoir les caractéristiques formelles d'hymne avec l'acrostiche dont je vous le parlais, hein, alpha, bêta, gamma, delta, en copte, nous n'avons pas d'acrostiche, parce qu'il s'agit d'une traduction. Ce qui est important, c'est d'insister sur le fait que nous n'avons pas affaire à des hymnes dont les deux versions, la grecque et la copte, auraient pu être utilisées dans la liturgie. Comme le fait remarquer Anne Boudor, il faut supposer que le manuscrit n'était pas destiné à la récitation collective, mais plutôt à la lecture ou à la méditation, hein, l'utilisateur coptophone désirant peut-être connaître le sens de ce qu'il récitait en grec ou conserver l'original grec de ce qu'il récitait en copte, nous dit Anne Boudor. Alors, je serais tenté de conférer à ce texte une finalité réellement scolaire. La disposition en vis-à-vis des textes grecs et copte, mais surtout l'arrangement juxtalinéaire des vers constitutifs de ces hymnes permettait ainsi au lecteur non seulement de mieux comprendre le texte grec, mais aussi de faire ce qu'on appellerait aujourd'hui du petit grec. Le texte de la page qui suit immédiatement les hymnes et qui donc a été copié dans la foulée, se présente carrément comme un glossaire, s'appuyant sur de courtes phrases avec sujet, le sujet c'est d'ailleurs toujours théos, Dieu, suivi d'un verbe. Et courte phrase traduite sur la même ligne, après, comme vous le voyez, un double point, c'est-à-dire un dicolone, selon la disposition habituelle des glossaires, comme on a eu l'occasion de le voir. Alors, vous voyez, hein, je lis, là, Dieu guide-nous, Dieu est venu, Dieu s'est incarné, Dieu a été engendré, Dieu a été baptisé, Dieu a été crucifié, Dieu est mort, Dieu a ressuscité, Dieu est monté au ciel, Dieu vient, Jésus-Christ est vainqueur. Amen 99, hein, je vous rappelle que 99 est l'isobséphie d'Amen, hein, si vous, vous additionnez les valeurs numérales de chacune des lettres d'Amen, vous aboutissez à un total de 99. Ces expressions appartiennent au vocabulaire de la liturgie et permettaient ainsi au lecteur de s'imprégner de ces locutions exprimant le miracle de l'incarnation et de la résurrection du Christ, tout en s'initiant au lexique grec grâce à une mise en page adaptée. Le lecteur pouvait même apprendre le système des nomina sacra dont je vous ai parlé avec le codex Kotzen, puisque les premières occurrences du mot théos, Dieu, sont écrites en clair, et ce n'est qu'à partir de la quatrième ligne que le mot est abrégé selon le système des nomina sacra, où on ne garde que la première et la dernière lettre, comme si le copiste avait voulu ménager une sorte de progression dans la difficulté pour le futur lecteur. Enfin, les textes de la première page et du dernier folio sont tous des citations d'auteurs choisies pour leur brièveté et leur caractère, je dirais, édifiant. Regardons rapidement ces textes. Folio 1a, Abba Athanase, l'archevêque d'Alexandrie, témoigne dans le sermon qu'il fit sur la croix que, si Dieu, et là malheureusement on a un problème de texte, peut-être si Dieu voit l'homme en idolâtrie, eh bien il le ramène de là. Alors, c'est une citation d'une passionnée maître Crucem d'Athanase. Ensuite, l'apôtre Paul dit « Si même quelqu'un est surpris en quelque chute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur et prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres. » Et là, c'est une citation de l'Épître aux Galates. Folio 8, Abba Sévère, l'archevêque d'Antioche, dit « Si un homme qui désire être ordonné désire honneur et luxe et non le ministère, laisse-le plutôt apprendre le métier de charpentier ou de forgeron ou un métier intellectuel. » L'apôtre Jacques dit dans ses épîtres catholiques « Si quelqu'un s'égare loin de la vérité, que quelqu'un le ramène, celui qui aura ramené un pécheur dans la voie où il s'égarait, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Épître de Jacques. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez pardonnés. » Là encore, c'est une citation de Jacques. Enfin, folio 8b, l'apôtre Paul témoigne dans ses épîtres aux Romains, deux points citation, « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » C'est une citation de l'Épître aux Romains 11-29. « En cela, en effet, celui qui se repent sera ramené à la gloire dont il a chu. Puisqu'alors les choses de Dieu restent fermement établies, c'est ton devoir maintenant de t'en rendre digne par la vertu ou de t'en éloigner par le péché. » Alors voilà ces textes supplémentaires qui ont été rajoutés juste avant et surtout après le petit hymnaire. Alors, on remarquera que presque tous les citations, sauf la dernière, sont construites sur un même schéma. Si, ta-ta-ta-ta, alors, ta-ta-ta-ta. Qui n'est pas sans faire penser aux cris, vous savez, ces sentences édifiantes dont je vous ai souvent parlé, qu'on rencontre très souvent dans les textes scolaires, cris que l'on prisait dans l'enseignement classique et qui pouvaient se présenter sous une forme subordonnée principale. On en a vu un certain nombre d'exemples avec notamment les sentences de Diogène, les cris de Diogène. Alors, si j'ai raison, ce cahier serait un des plus beaux exemples de modèle de texte bilingue permettant à des coptes, probablement des novices ou des moines, de s'initier à la langue grecque dont la connaissance était encore nécessaire pour suivre la liturgie, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire. Alors, les textes que je vous ai montrés jusqu'ici sont tous bibliques ou liturgiques. Je n'ai pas besoin de revenir sur le changement de paradigme qu'a introduit le christianisme et qui a poussé les maîtres chrétiens à remplacer les textes littéraires classiques par les textes chrétiens, à la fois plus en phase avec la nouvelle religion, mais aussi avec la pratique, avec la méditation quotidienne auquel s'adonnait le chrétien, surtout s'il est évidemment clair ou moine. J'en ai déjà amplement parlé en citant des auteurs comme Basile, comme Saint Jérôme, comme Pacôme, qui recommandaient expressément l'usage de la Bible dans l'enseignement. Mais est-ce à dire que la littérature profane grecque a été totalement évincée de l'enseignement copte, que ce soit sous sa forme originale, ou sous la forme de traduction. En tout cas, ces textes profanes, s'ils existaient, présenteraient au moins un avantage si les textes bibliques et liturgiques se laissaient difficilement caractériser comme scolaires, puisqu'ils pouvaient avoir été utilisés dans la liturgie ou pour la dévotion personnelle, eh bien, les textes grecs profanes seraient beaucoup moins ambigus et du fait même qu'ils sont inutiles dans la vie de tous les jours, seraient susceptibles d'être considérés comme ayant servi à un enseignement. Alors, la littérature grecque classique est-elle totalement sortie des programmes de l'enseignement copte ou a-t-elle survécu? Alors, nous allons découvrir que les pages de littérature grecque étudiée en cours étaient finalement plus variées que ne le laisseraient penser les exhortations des pères de l'Église. Il reste cependant toujours la difficulté de replacer l'étude de ces textes dans le contexte spécifique d'un enseignement à destination de coptophones primaires. Si un texte grec parvenu sans aucun contexte ne peut guère être rattaché à un enseignement copte, il en est d'autres qui présentent des indices permettant de les inscrire dans une formation dispensée à des élèves coptophones. Ces indices, finalement, sont les mêmes que ceux que nous avons retenus pour les textes religieux la semaine dernière. Le premier indice nous est fourni par la présence des textes coptes retrouvés concomitamment avec des textes grecs, les premiers assurant que les derniers ont bien été lus dans une ambiance coptophone. C'est probablement le cas d'un ensemble d'ostracas tout à fait singulier, conservé aujourd'hui au Petrie Museum de Londres. Alors, cette série comprend 25 immenses ostracas, puisqu'ils vont de 25 à 40 cm. C'est rarissime de trouver des ostracas aussi grands, écrits sur les deux faces par une main qui serait datable, d'après les éditeurs ou les éditrices de la fin du 5e siècle, mais peut-être en fait plutôt de la fin du 6e ou du début du 7e siècle, et provenant peut-être de la Haute-Égypte, peut-être Thèbes Ouest, selon une hypothèse, mais qui reste extrêmement fragile. Alors, on y trouve, dans ce groupe d'ostracas, le chant 1 de l'Iliade, les sentences de Ménandre, classées par ordre alphabétique, en plus des psaumes, des actes des apôtres, de l'épître aux Romains, de l'épître aux Galates, de l'épître de Jacques, de l'épître de Jean, de l'épître de Jude, et d'un texte liturgique. Donc, vous voyez qu'on a aussi bien des textes classiques que des textes chrétiens, bon, toujours en grec. Or, appartiennent à ce même groupe des textes coptes et grecs qui dessinent un contexte coptophone. Alors, on a des documents, je passerai sur ces documents, mais je m'attarderai sur deux textes littéraires gréco-coptes qui appartiennent à cet ensemble. Le premier donne un extrait de l'épître de Jean en copte, texte qui est aussi présent dans la partie grecque de cet ensemble, avec peut-être, mais voyez que l'ostracone est extrêmement effacé, avec peut-être sur le verso un texte en grec, peut-être même la traduction de, plus exactement, le texte grec dont le copte serait la traduction. Et le second donne l'épître de Jude, qui, elle aussi, est présente en grec dans ce même ensemble, avec les versets de 1 à 3 en grec, et le verset 4 en copte et en grec. Donc cet ensemble est donc doublement bilingue. Certains textes sont écrits tantôt en grec, tantôt en copte, tandis que d'autres sont écrits dans les deux langues à la fois. Alors, étant donné leur taille, je vous ai dit, ça peut aller jusqu'à 40 cm, il est très vraisemblable que ces textes aient joué le rôle de modèle offert au regard des écoliers ou des élèves. Le maître aurait copié sur de grands tessons qui devaient se suivre, en lettres bien visibles, les textes qu'il souhaitait soumettre à ses élèves. Il s'est constitué, je dirais, une sorte de bibliothèque de modèles composés de livres dont les pages sont autant de tessons de poterie. La présence de ponctuation, de divers signes diacritiques, d'esprit rude, pourrait aussi confirmer la nature scolaire de ces textes. Ce qui m'intéresse dans ce groupe de textes, c'est qu'à côté des psaumes, à côté des épîtres du Nouveau Testament, dont l'enseignement, souvenez-vous, est recommandé par Pacôme, et dont nous avons rencontré cette année de multiples exemples incontestablement scolaires, et bien à côté de ces textes, nous trouvons les deux piliers de la culture grecque profane, Homère et Ménandre, le Ménandre des sentences, l'un modèle de la poésie épique, l'autre de la poésie iambique, deux auteurs qui continuent à être étudiés jusqu'à la fin de l'hellénisme en Égypte, étudiés dans le texte original. La présence du copte peut aussi être marginale au double sens du terme. Je veux parler de textes grecs dont on sait qu'ils étaient étudiés par des coptes grâce à des annotations qu'ils ont discrètement laissées dans les marges des manuscrits. Alors, le meilleur exemple d'un tel cas nous est offert par le fameux manuscrit de Théocrite d'Antinoopolis. Il s'agit d'un codex de presque 30 cm de hauteur, daté par l'écriture du 5e-6e siècle. Moi, j'aurais plutôt une préférence pour le 6e. Le texte est truffé, comme vous pouvez le voir, de corrections et surtout de gloses, doté de nombreux signes diacritiques. On a des accents, vous pouvez le voir, là, un accent aigu, vous avez des apostrophes, vous avez des esprits et divers autres signes diacritiques. Vous avez même des marques de quantité, des longues et des brèves, ce qui peut être utile quand on travaille sur un texte de poésie comme les Théocrites. Et ce qui est intéressant, c'est que au-delà de ces corrections, on a aussi, comme je vous l'ai dit, de très nombreuses gloses marginales. Or, une de ces gloses, une de ces annotations, est en copte, ce qui est absolument exceptionnel pour un texte de culture classique et très instructif, évidemment, pour définir le profil linguistique de celui qui en est l'auteur. Mais faut-il rattacher ce manuscrit à un contexte scolaire ? Ce que l'on constate, c'est qu'il s'agit d'une production assez modeste du point de vue des standards de la librairie antique. L'écriture n'a aucun caractère régulier qui lui donnerait une allure tant soit peu calligraphique. Donc il ne s'agit pas d'un beau livre copié par un calligraphe professionnel. L'écriture est déparée par de nombreuses corrections qui ont été très grossièrement exécutées. Les gloses sont ajoutées, sans souci d'harmonie dans la présentation. Et surtout, le texte même trahit une connaissance lacunaire du grec et un sens philologique peu développé, aussi bien chez le copiste que chez les correcteurs et annotateurs, avec de nombreuses fautes d'orthographe, des lapsus calamis divers et variés, et des annotations qui dénotent un très bas niveau philologique. Il s'agit donc d'un exemplaire de travail ayant appartenu à quelqu'un qui n'était manifestement pas un érudit, mais qui souhaitait se former à la poésie alexandrine, dont Théocrite est le meilleur ou un des meilleurs représentants étudiés jusqu'à quasiment à la fin de l'hellénisme en Égypte. La copie du codex et l'ajout de gloses et de nombreux signes diacritiques et prosodiques pourraient s'inscrire dans un cadre scolaire, hein, comme j'ai eu l'occasion souvent de vous le dire, hein, les textes littéraires accentués, pourvus de ponctuation et de signes diacritiques, sont souvent des textes qui ont été étudiés dans le cadre de cours. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle est parvenu Fausto Montana, après avoir passé au crible les nombreuses annotations qui le parsèment. Hein, je le cite, conclut en disant « L'apparat de notes de ce papyrus est donc dû à une ou plusieurs personnes ayant bénéficié d'une initiation élémentaire à l'œuvre de Théocrite, probablement réalisée sous la conduite du grammaticos, donc du maître de grammaire. » Alors, la glose en copte que vous avez à l'écran, qui mélange d'ailleurs du grec et du copte avec ces deux mots « gir », hein, qui veut dire du garum, et « ner », et là, il faut corriger la réédition, c'est bien la réédition de Montana, c'est bien « ori » qu'il faut lire et non « enzeta ».« Ner », ça signifie de l'huile. Donc, cette glose en copte pourrait indiquer qu'au moins un des élèves de ce grammaticos était coptophone. Le fait qu'elle est unique au milieu des nombreuses annotations en grec du manuscrit semble montrer que l'enseignement dans le cadre duquel ce codex a été utilisé s'adressait à des coptes appartenant à des milieux très bien hellénisés. On notera que l'étudiant annotateur bascule en copte pour deux notions très concrètes, hein, le garum et l'huile. Hein, si je traduis la glose, hein, on pourrait traduire par « à ceux qui s'amusent, donne du garum, donne de l'huile ». Donc deux réalités concrètes pour lesquelles le mot « copte » lui est peut-être venu à l'esprit plus facilement, puisque le copte devait être sa langue maternelle. On est typiquement dans la situation d'un coptophone très bien hellénisé, qui s'initie à la littérature grecque pour parfaire son hellénisme. Je subodore que cet élève, ou cet étudiant plus exactement, devait faire partie de cette élite copte pratiquant la langue grecque et souhaitant se réclamer pleinement de la culture grecque, par ailleurs indispensable pour faire une carrière administrative, élite qui devait peupler certaines cités comme Antinoopolis, qui est une très grande cité, qui était capitale de la province de Thébaïde. Cet exemple nous fait pénétrer dans un milieu qui est très, très différent de celui de la rive ouest de Thèbes et de ses monastères. Alors, comme pour les textes bibliques ou liturgie grecque, nous avons aussi des textes profanes grecs qui ont été retrouvés en version bilingue et qui témoignent de l'étude de la langue grecque par des coptes en s'appuyant sur des textes classiques. Alors, les exemples que je voudrais vous montrer concernent à nouveau Ménandre. Ménandre, nous avons vu il y a 2 ans, avec le papyrus Bourian I, la place importante que les sentences de Ménandre dans l'école antique ont joué. Hein, c'est un recueil de pensées édifiantes, très court, exprimé de façon très courte, puisque chaque sentence ne fait qu'un vers, hein, on appelle ça des monostiques, recueil dont la constitution, à partir d'un noyau de vers de l'auteur comique, Ménandre, et la transmission doivent beaucoup à l'école qui y trouvait un matériau pédagogique, riche et multifonctionnel, hein, propre à servir à des cours de littérature, à des cours de métrique, mais aussi à des cours de morale. L'école copte ne pouvait donc pas ignorer cet auteur dont la dimension morale s'accordait avec l'enseignement chrétien, et il se trouve qu'elle a laissé de nombreux témoignages de l'étude bilingue des sentences. 2 cahiers à usage scolaire ont été retrouvés avec un large recueil de sentences copiées en grec selon l'ordre alphabétique de leur initiale, suivi de leur traduction copte. Alors, du premier, il nous reste qu'un folio de papyrus, datable par l'écriture du 5e, 6e siècle. Je ne peux pas contrôler l'exactitude de cette datation, étant donné que le papyrus a été publié sans photo et que les photos sont inaccessibles sur Internet. Il est conservé à la British Library. Du second, nous est parvenu 8 folios de papyrus partagés entre le Vatican et Vienne et qui sont datables du 5e, 6e siècle. Alors, il est intéressant de constater que les sentences choisies dans le large corpus des sentences de Ménandre sont les mêmes entre les deux manuscrits, alors que nous avons tant d'autres recueils avec des sentences différentes, ce qui montre qu'il existait divers types de choix de sentences qui ont circulé de siècle en siècle, certains ayant connu une plus grande diffusion que d'autres. Alors, non seulement le choix des sentences dans ces deux recueils, dans ces deux manuscrits, est le même, mais la traduction copte est aussi identique d'un recueil à l'autre, si l'on fait abstraction des nombreuses erreurs de copie. Et on voit donc que la traduction n'a pas été faite ad hoc, mais appartient à une recension qui, elle aussi, a dû circuler en Égypte. Ces deux recueils ont très certainement servi aux maîtres dans leur enseignement, qui pouvaient y piocher certaines sentences qu'ils étaient amenés à utiliser pour leurs cours. J'en veux pour preuve le nombre de sentences qu'on ne trouve attestées que dans ces deux papyrus, tournant autour des grammata, des lettres, et de l'importance de l'éducation lettrée. Alors voici, je vous ai mis les sentences avec leur numérotation moderne. Savoir lire et écrire, c'est un beau commencement dans la vie. Sans coup, personne n'apprend à lire et à écrire. Vous vous souvenez que l'école antique était plutôt violente avec les élèves. Enfin, les maîtres étaient plutôt violents. Celui qui sait lire et écrire a un raisonnement ferme. Apprends à lire et à écrire et tu nourriras de belles espérances. Ce Dieu récompense ceux qui savent lire et écrire. Il a une très belle, peut-être carrière, je ne sais pas, celui qui sait lire et écrire. Bienheureux celui qui sait lire et écrire. Pas de coups de bâton pour ceux qui apprennent à lire et à écrire. Alors là, on a quelque chose qui est un petit peu le contraire, ce qui veut dire que quand on apprend à lire et à écrire, au moins on est sûr de ne pas recevoir de coups de bâton de la part du maître. Cette multiplication de sentences qui prône l'apprentissage de la lecture et de l'écriture est sans nul doute une des traces ou un des indices de l'exploitation scolaire de ces recueils de sentences qu'on n'hésitait pas à adapter par l'ajout de nouvelles sentences ou le retranchement d'autres jugées moins appropriées au but que l'on se fixe, au contexte dans lequel on se trouve. Alors le hasard a voulu que l'on ait retrouvé des exercices mettant en pratique ces recueils. Autrement dit, les copies que les élèves ont pu faire de l'une ou l'autre de ces sentences dans leur version bilingue. Alors, voici un ostracone qui se trouve à Vienne, qui donne là encore la sentence d'abord en grec et sa traduction en copte. L'épouse sans dot n'a pas de liberté de parole. On dirait peut-être dans un français plus moderne, n'a pas voix au chapitre. Et vous avez la traduction en copte. À une épouse qui a été dépossédée, on ne donne pas la liberté de parole. Et là, vous voyez qu'entre le grec et le copte, il y a un faux sens. La traduction n'est pas exacte parce que le mot grec aproikos, c'est-à-dire dépourvu de dot, a été rendu en copte par qui a été volé. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Un autre exemple, avec cet ostracone qui provient des fouilles franco-polonaises qui ont été faites à Tel Edfou, et qui donne là encore une sentence de Ménandre en grec, l'occasion qui est souveraine et qui a la force. Là, on sent qu'il manque un verbe principal, ce qui veut dire qu'il y a un problème avec la version grecque de cette sentence. Et en copte, on a comme traduction l'occasion qui est souveraine à la force. Alors, on a là une version très fautive, avec une omission, avec une haplographie de la sentence grecque, elle-même transmise de façon corrompue par les manuscrits. Et le succès, en fait, qu'ont rencontré les sentences de Ménandre explique en effet qu'au cours de leur transmission, elles aient été modifiées, voire trafiquées, jusqu'à les rendre parfois amétriques, voire incompréhensibles. Ces deux recueils et ces deux ostracas bilingues prouvent sans l'ombre d'un doute que les sentences de Ménandre étaient au programme des cours par lesquels les maîtres coptes apprenaient un peu de grec à leurs élèves. Alors, en fait, nous nous en doutions déjà avec, souvenez-vous, les deux recueils de sentences uniquement en grec conservés par deux ostracas du monastère d'Épiphane dont je vous avais parlé l'an dernier, celui-ci et celui-là que nous avions eu l'occasion de déchiffrer en séminaire, sans compter d'ailleurs ce recueil de sentences d'inspiration ménandréenne qui est livré par un autre ostracon du monastère d'Épiphane. Or, vous vous souvenez peut-être que ces textes ont été retrouvés dans les cellules A et B du monastère d'Épiphane, dont j'avais eu l'occasion de vous montrer qu'il y avait de fortes présomptions pour penser qu'elles ont abrité des activités d'enseignement. L'ambiance prioritairement coptophone du monastère montre qu'on y enseignait aussi le grec à travers ces sentences censées être édifiantes et facilement adaptables à la sensibilité chrétienne, au point d'ailleurs qu'on n'a pas hésité dans les deux recueils trouvés à Épiphane, on n'a pas hésité à introduire les sentences par une sentence tout à fait nouvelle qui est la crainte de Dieu et le début de la sagesse, qui ne forme pas un trimètre iambique, mais qui est une citation des Proverbes, Proverbes 1, 7. Donc, une christianisation des sentences de Ménandre. La nature transculturelle des sentences de Ménandre, auxquelles, de par leur caractère éthique et l'absence de référence au polythéisme grec, pouvaient adhérer aussi bien un grec païen qu'un égyptien chrétien, explique qu'on ait continué à les lire dans les milieux chrétiens de l'Antiquité tardive et que l'on ait cherché à les traduire en copte. Le fait que ces sentences ont une forme très simple, le trimètre iambique est un vers qui ressemble à la langue prosaïque, le fait aussi qu'elles n'ont pas de prétention esthétique permettait d'envisager leur traduction sans qu'il y ait de véritable déperdition. On imagine plus difficilement la traduction en copte des tragédies de Ripide, pour prendre le cas des grands auteurs qui étaient encore lus à l'école, en tout cas à l'école grecque. On imagine plus difficilement la traduction en copte des tragédies de Ripide ou, plus improbable encore, des poèmes d'Homère. Vous vous souvenez qu'on a retrouvé au monastère d'Épiphane des ostracas avec les premiers vers de l'Iliade en grec, mais il s'agissait toujours du premier ou des deux premiers vers du chant 1 de l'Iliade, et nous avions vu en plus que ces ostracas étaient avant tout des exercices d'écriture. Un ostracon de Colombien, provenant aussi d'un monastère, celui du Grand Foibamon, avec une paraphrase prosaïque du second hémistiche du vers 61 du chant 3 de l'Iliade et une partie du vers 3, enfin de vers 171 ou 228 du chant 3, nous avait cependant laissé entrevoir la possibilité que l'objectif de l'exercice n'était pas simplement graphique, mais aussi d'entrer plus à fond dans le texte d'Homère en s'intéressant à l'histoire qu'il raconte et à sa forme métrique. Autrement dit, typiquement ce qui constituait l'enseignement d'un grammaticos. Mais, il faut reconnaître que nous n'avons pas beaucoup de traces de la présence d'Homère dans les milieux coptes, à l'exception de ceux bien hellénisés dont témoignent les papyrus de Dioscore, d'Aphrodite, un milieu qui pouvait être amené à rédiger des textes grecs dans une prose soutenue qu'il était à l'époque de bon ton d'agrémenter d'homérisme ou de citations homériques. Pour des coptes visant seulement l'acquisition de connaissances basiques en grec, pour se débrouiller dans la vie de tous les jours, Homère était inutile. De plus, l'univers païen dans lequel baigne l'Iliade et l'Odyssée, la langue aussi des poèmes homériques, très archaïques, ne pouvait qu'effrayer ou rebuter des coptophones natifs cherchant à apprendre le grec ou tout simplement à lire les aventures d'Achille et d'Ulysse. On aurait pu envisager d'en établir une traduction en copte, comme pour les sentences de Ménandre, mais la difficulté de l'entreprise avait de quoi décourager les maîtres coptes qui pouvaient en outre douter légitimement de l'utilité de l'étude d'une œuvre dont l'esprit était si éloigné, hein, contrairement aux sentences de Ménandre, de la sensibilité et de la culture copte. La transposition des hexamètres dactyliques d'Homère en copte aurait par ailleurs complètement aplati le texte et fait disparaître tout ce qui fait son intérêt. De fait, nous n'avons aucune traduction copte d'œuvres poétiques grecques, à l'exception de citations courtes et déformées, évidemment, des sentences de Ménandre, mais sentences dont j'ai eu l'occasion de vous le dire, utilisent un vers qui est quasiment celui de la langue de tous les jours. Et pourtant, une pièce tout à fait exceptionnelle a été récemment publiée, qui montre que les Coptes ont essayé de produire des outils permettant à des non-hellénophones de s'intéresser aux poèmes homériques. Et curieusement, ce papyrus n'a pas suscité de réaction dans la communauté scientifique, alors qu'il est, on ne peut plus, singulier. Il s'agit d'un feuillet de papyrus provenant d'un codex datable du VIe siècle, qui présente un texte, comme vous le voyez, en trois colonnes. La première contient les vers d'Homère, coupés chacun en quatre. La deuxième donne, pour chacun des quarts de vers, une version en koiné grec, donc en grec courant. Et la dernière colonne donne une traduction en copte saïdique de la deuxième colonne. Ainsi, tout le texte d'Homère est paraphrasé en grec courant, hein, comme dans les glossaires homériques trouvés en quantité sur papyrus, puis, ce qui est une première, traduit en copte. Alors, nous n'avons que l'Iliade 2, enfin, chant 2, vers 70-82, sur ce feuillet de papyrus, mais il est probable que le codex complet contenait, sinon toute l'Iliade, du moins plusieurs chants ainsi traduits. Alors, si on met bout à bout les gloses coptes, on n'obtient cependant pas un texte copte cohérent, en tout cas en adéquation avec le génie de la langue copte, dans la mesure où le copte ne correspond pas à une traduction suivie du grec, mais à la traduction isolée de chaque unité textuelle. À défaut de prouver qu'il a existé donc une traduction complète du poème homérique en copte, ce papyrus montre qu'on a pu établir un glossaire gréco-copte suivi de l'ensemble qu'on a pu établir un glossaire gréco-copte suivi de l'ensemble du poème le plus lu d'Homère, l'Iliade, qui pouvait servir à l'enseignement. Les coptes avaient donc à leur disposition des outils leur permettant de lire et d'étudier Homère. Les utilisateurs de ce codex ne sont évidemment pas à chercher parmi ceux qui fréquentaient les écoles villageoises ou les écoles monastiques. Hein, il provient d'une grande cité, la cité d'Oxyrhynchos. Ils appartenaient bien plutôt à ces élites coptes hellénophones cherchant à pratiquer la culture grecque dans ce qu'elle a de plus exigeant et dont Dioscore d'Aphrodite est un des meilleurs représentants. Ce codex n'aurait pas déparé d'ailleurs dans la jarre de Dioscore d'Aphrodite, qui, souvenez-vous, hein, contenait un exemplaire de l'Iliade, ainsi que des poèmes de circonstances qu'il a composés, très influencés par Homère, et des papiers d'affaires, là aussi, où les homérismes et les citations homériques ne sont pas rares. Alors, si ce folio de papyrus reste pour l'instant un cas à part, ce qu'il illustre, c'est qu'en fait, il illustre les besoins pédagogiques d'un segment très restreint de la très minoritaire de la population copte. Alors, nous voilà parvenus au terme de notre enquête sur l'enseignement copte. Alors, il est temps de synthétiser rapidement les résultats auxquels nous a conduit l'examen de la documentation. Alors, nous avons eu du mal à définir ce qu'on pouvait entendre par école copte ou par enseignement copte. Alors, s'il s'agit de cours permettant à des coptes d'apprendre à lire et à écrire en copte, alors oui, hein, l'école copte est bien documentée. Ce niveau élémentaire, celui du grammatistes, hein, dans la tradition grecque, est bien visible dans la documentation à travers des exercices d'apprentissage de lettres, d'alphabet, de syllabes, de mots. Nous avons vu que ces trois étapes, qui calquent celles de l'enseignement grec, ont été diversement adaptées aux exigences de la langue copte. Les exercices sur l'alphabet n'incorporent pas toujours les lettres coptes qui sont enseignées à part. Les syllabaires, quant à eux, tantôt intègrent les lettres coptes, tantôt les relèguent dans une partie séparée, tantôt les omettent. Enfin, les listes de noms font plus ou moins de place aux mots coptes et aux noms bibliques, les maîtres continuant à piocher les exemples de mots dans les vieilles listes de l'enseignement grec pré-chrétien. Pour l'instant, le codex Kotsen est le seul témoignage d'un enseignement primaire qui ait été repensé dans le cadre copte et adapté aux spécificités phonologiques et morphologiques de la langue égyptienne en proposant des syllabaires parfaitement coptisés et assortis avec la section des mutismes d'exercices sur les mots comportant des syllabes pourvues de, comme on avait eu l'occasion de le voir, de résonances non phonémiques. Mais ce manuel, issu d'un milieu monastique, était-il représentatif des méthodes utilisées dans les écoles que j'appellerais laïques, avec des guillemets? La documentation qui nous est parvenue tendrait à répondre par la négative. Les monastères ont en effet joué un rôle décisif dans la propagation du copte et dans le développement d'une culture liée à cette langue, rôle qui passe évidemment par l'affirmation d'une autonomie linguistique impliquant aussi une autonomie pédagogique. Le niveau suivant, celui du grammaticos, hein, selon la tradition grecque, est bien moins visible dans la documentation. L'enseignement de la grammaire a laissé très peu de traces, comme si celle-ci n'était pas enseignée de façon normative. Quant aux textes littéraires qui constituent la base de l'enseignement et les compositions par lesquelles l'élève met en pratique les connaissances de la langue, ils sont beaucoup plus difficiles à identifier. S'il est relativement facile de reconnaître, j'ai eu l'occasion de le dire encore aujourd'hui, un papyrus d'Homère comme ayant été copié et étudié par un élève fréquentant l'école grecque, école qui passe obligatoirement par l'étude des vieux auteurs du patrimoine littéraire, eh bien, il n'en va pas de même avec les textes bibliques ou liturgiques par lesquels l'école copte remplace les auteurs classiques, qu'elle ne cherche d'ailleurs pas à traduire autant par incapacité que par idéologie. Incapacité parce que, on l'a vu, il n'est pas facile de rendre de la poésie dans une autre langue, et idéologie aussi parce que on a vu que dans certains milieux il peut y avoir une défiance à l'égard de la culture classique grecque. Or, comment confirmer à coup sûr le caractère scolaire de tels textes qui peuvent relever aussi bien de la dévotion privée, de la préparation à la liturgie? Enfin, les compositions que les élèves devaient écrire une fois qu'ils avaient acquis une certaine autonomie langagière sont encore plus, je dirais, insaisissables. Hein, les exercices préparatoires à la rhétorique, les progymnasmata, n'étant plus enseignés, eh bien, nous n'avons plus de composition rhétorique du genre de celle que l'école grecque a livrée. Les compositions semblent s'être limitées à des variations bibliques ou liturgiques ou à des essais épistolaires. Mais là encore, comment les distinguer d'un côté des prières, des hymnes ou des autres textes chrétiens qui constituent la production littéraire de l'époque et de l'autre, de l'être authentique. On est en tout cas frappé par le caractère pragmatique de cet enseignement, en tout cas pour ce qui est des écoles monastiques, hein, celles qui ont livré de loin le plus de documents. Caractère pragmatique de cet enseignement qui cherche à faire des élèves de futurs moines capables d'élaborer ou de recopier des textes chrétiens et d'écrire des lettres. Alors, il est vrai que nous n'avons pas l'âge de ces élèves. L'entrée parfois tardive dans les monastères où il est exigé un certain degré d'alphabétisation peut expliquer qu'on ait adapté l'enseignement à des élèves déjà adultes en leur donnant d'emblée des connaissances pratiques leur permettant de se débrouiller dans les tâches qu'ils étaient amenés à exécuter au quotidien. Notre vision donc de l'enseignement copte est peut-être biaisée par la provenance très majoritairement monastique de la documentation scolaire de l'Antiquité tardive. Mais cette professionnalisation de l'enseignement n'est pas seulement due au profil des élèves des écoles monastiques. En fait, elle se fait sentir très tôt avec des élèves encore jeunes, comme nous aurons l'occasion de le voir l'an prochain en terminant notre enquête sur l'école avec l'enseignement professionnel sur lequel tout reste à faire. Et c'est une des tendances hein, de l'enseignement de l'Antiquité tardive, cette professionnalisation, une des tendances très méconnues de cet enseignement et qui, vous le verrez, nous réservera quelques surprises. Si les témoignages de l'enseignement du copte relevant du second degré sont difficiles à appréhender, eh bien, il n'en va pas de même de celui du grec en milieu copte. Glossaire gréco-copte, table de conjugaison, texte en version bilingue, voire uniquement originale, nombreux sont les exercices qui illustrent l'apprentissage plus ou moins poussé du grec par les coptes. La prégnance du grec dans l'enseignement copte est si lourde qu'on serait presque tenté de penser que l'apprentissage du grec était la norme pour les élèves qui poursuivent leurs études au-delà du simple apprentissage de la lecture et de l'écriture. Aussi ne sera-t-on pas surpris de l'absence d'exercices poussés en copte, hein, comme les compositions rhétoriques. Ces exercices sont à chercher dans la documentation qu'a laissée l'enseignement grec, qui semble avoir pris le relais du copte une fois dépassé le niveau élémentaire. Et en conséquence, il faut sortir d'une vision qui tendrait à voir d'un côté les écoles grecques pour les Grecs et de l'autre des écoles coptes pour les coptes. Un millénaire de cohabitation et d'assimilation a conduit la population à un bilinguisme beaucoup plus répandu et beaucoup plus profond que ne le laisseraient croire les conceptions manichéennes que véhiculent nos livres d'histoire et la terminologie qu'ils emploient. Hein. Trop souvent, on parle des Grecs d'un côté, des Coptes de l'autre. Certes, les élites hellénophones devaient avoir leurs propres écoles monolingues, mais l'immense majorité de la population capable d'assumer les frais d'une scolarisation envoyait leurs enfants dans des écoles où l'enseignement grec côtoyait étroitement l'enseignement copte. Si les bases était d'abord donné en copte, d'où la multitude d'exercices d'écriture en copte, le grec faisait vite son apparition et devenait d'autant plus présent que l'élève avançait en niveau. Le but était de former des coptes capables de lire et d'écrire dans leur langue, mais aussi, pour ceux qui pouvaient se le permettre, d'acquérir une connaissance du grec qui leur serait nécessaire dans la vie de tous les jours, dans les domaines où le grec était la langue de référence, c'est-à-dire pour les activités économiques, dans la sphère administrative, dans le domaine judiciaire ou juridique. Savoir écrire une lettre d'affaires, savoir lire un reçu d'impôt, surtout quand il s'agit de ses propres impôts, contrôler et signer un contrat, se plaindre ou en référer à l'administration, tout cela nécessite la connaissance du grec, car toutes ces actions passent par une rédaction des documents en grec. Il n'y a donc pas juxtaposition d'un enseignement copte et d'un enseignement grec, mais plutôt imbrication, complémentarité, contiguïté des deux. Nous avons évolué toute cette année dans un univers où les lignes de démarcation entre culture grecque et culture copte sont beaucoup plus brouillées que les érudits modernes ne le pensent, moins d'ailleurs par goût de la simplification que du fait d'une vision conditionnée par l'organisation de notre monde académique qui, à la faveur de filières très rigides, produit des spécialistes de telle ou de telle culture, de telle ou telle langue. Il nous faut donc apprendre, en élargissant notre champ d'investigation et en multipliant les approches, à avoir une vision plus nuancée et plus complexe du monde que nous étudions, une vision qui soit à la hauteur de la richesse et de la complexité de la société si profondément biculturelle de l'Antiquité tardive. Je vous remercie. Et je vous dis non pas à la semaine prochaine, mais à l'année prochaine.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.